Radio Okapi.
Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature désapprouve l'interdiction par le ministère de la Justice du transfèrement des détenus préventifs dans les prisons de Kinshasa et l'accusation selon laquelle les magistrats seraient à la base de la tentative d'évasion des prisonniers par le fait de la surpopulation. Nous en parlons dans ce journal. Situation encore tendue ces jeudis dans plusieurs localités des territoires de Massissi et Rutshuru. C'est là après des violents combats opposant depuis quelques jours les rebelles du 1-23 aux éléments des groupes des volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo. Notre invité, c'est le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Monseigneur Donatien Chollet s'exprime sur le drame de la prison centrale de Makala et en fait l'objet d'une déclaration des évêques catholiques qui ont rendu publique hier mercredi. Bonjour à tous. D'abord cette nouvelle, la première livraison de vaccins contre l'épidémie de monkeypox est attendue ce jeudi en République démocratique du Congo. Le pays, qui est parmi les nations les plus touchées par le virus, va recevoir au moins 200 000 doses cette semaine. Selon l'OMS, le gouvernement a prévu de commencer à déployer les vaccins dès le week-end. L'Organisation mondiale de la santé avait promis la semaine dernière une première livraison d'environ 230 000 doses du vaccin MVABN du laboratoire pharmaceutique danois-bavarien nordique. Entre-temps, dans les territoires de Béni, un cas de la variole de singe a été confirmé le samedi 31 août 2024 dans la zone de santé de Mutwanga. Nous sommes dans l'aire de santé de Kassindi-Lubiria, à la frontière avec l'Ouganda, à environ 80 km de la ville de Béni. L'annonce a été faite ce jeudi par le médecin chef des zones de santé de Mutwanga, docteur Germain Kamaliro. André Kitenge nous fait le point.
Il s'agit du premier cas positif de la variole des singes ou monkeypox dans le Grand Nord Kivu. Le 27 août dernier, deux échantillons prélevés sur des malades avaient été envoyés à l'Institut national de recherche biologique INRB à Kinshasa pour des analyses. Selon le docteur Germain Kamaliro, le médecin chef des zones de santé de Mutwanga, cette maladie contagieuse et dangereuse représente une menace pour la population de la ville de Beni et de ses environs. Afin de prévenir sa propagation, le programme national de l'hygiène aux frontières a renforcé depuis lundi des dispositifs sanitaires au poste frontalier de Kassindi-Lubiria. Tous les trafiquants et commerçants sont soumis au contrôle sévère et au lavage des mains avant toute traversée via le poste frontalier de Kassindi-Lubiria. Pour le moment, a indiqué le docteur Germain Kamaliro, la zone de santé de Mutwanga fait face à une carence en équipement de protection individuelle. Située à environ 90 km de la ville de Beni, la zone de Kassindi est parmi les plus importantes de la République démocratique du Congo. Elle est la voie d'exportation et d'importation de plusieurs marchandises. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Guéguerre relancée entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice et garde des Sceaux sur l'administration de la justice en RDC. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature désapprouve l'interdiction du transfèrement des détenus préventifs à la prison centrale de Makala et à la prison militaire de Ndolo par le ministère de la Justice, accusant les magistrats d'être à la base de la tentative d'évasion des prisonniers par le fait de la surpopulation. Réuni hier soir, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature recadre le vice-ministre de la Justice. Selon le Conseil, la solution appropriée à la surpopulation carcérale tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que sur le régime pénitentiaire. Le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature et procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo.
Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée soupçonnés d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander au magistrat de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les déclarations du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire.
Rappelons que la déclaration du Conseil supérieur de la magistrature est consécutive à une note circulaire du vice-ministre de la Justice signée le 2 septembre relative à l'interdiction des transferments des détenus préventifs à Makala et Ndolo. Hier encore, le ministre de la Justice, fraîchement revenu de son itinérance en province, a effectué une visite surprise à la prison centrale de Makala tard dans la soirée. Et à nouveau, avec colère, il a enfoncé le clou contre les magistrats, promettant des sanctions contre, d'après lui, les saboteurs des actions du chef de l'État qui font sortir clandestinement des prisonniers de Makala. On l'écoute.
Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire ici en 2 semaines maximum. Tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État. Et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici à Makala, sans tenir compte de la capacité des cantonnements de ce. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas de l'évasion. Mais toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici après le désengorgement. C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est pas. Et on va sérieusement sanctionner.
Ce dossier est signé Jeff Ngoy. Et puis, à ce sujet, la MONUSCO annonce sa disponibilité à apporter une assistance sanitaire et psychosociale aux prisonniers affectés après la tentative d'évasion dans la prison de Makala. Les femmes victimes de viol dans la prison centrale de Makala seront visées en urgence dans cette assistance de la MONUSCO. L'annonce a été faite par Madame Viviane Van de Peer, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargée de la protection et des opérations. C'était à l'issue de la rencontre qu'elle a eue hier avec la première ministre Judith Suminwa. Elle le dit dans cet extrait choisi par Blaise Makassi.
Nous souhaitions exprimer nos sincères condoléances suite à ces événements tragiques. Nous sommes profondément attristés par la perte de vies humaines et par les blessures subies par les détenus. Nous avons offert notre assistance au gouvernement dans les limites moyens disponibles et sans préjudice des priorités identifiées par votre gouvernement, en coordination avec les agences, fonds et programmes des Nations Unies. C'est l'assistance assistance d'urgence comme assistance à la santé et soutien immédiat aux victimes et particulièrement les femmes comme des kits PEP de prévention des maladies. L'autre assistance peut être l'assistance psychosociale aux victimes des viols et nous avons aussi beaucoup d'experts en autres matières et nous avons tous offert au gouvernement pour assister avec cette matière très difficile.
Une autre réaction, c'est celle de Justicia Icebell qui dénonce et déplore les actes de violence commis sur les femmes détenues à la prison de Makala à Kinshasa. Par la même occasion, cette ONG des défenses de droits de l'homme plaide pour que des enquêtes soient menées afin que les auteurs de ces actes qu'elle qualifie d'odieux soient déférés devant la justice. On écoute Timothée Mbuya, le président national de Justicia Icebell, au micro de Jean Gandou.
Justicia Icebell salue l'implication personnelle de Madame la Première ministre chef du gouvernement, ainsi que tous les membres de son gouvernement, pour soulager tant soit peu des différentes victimes qui ont été enregistrées dans ce centre. Justicia salue tout particulièrement les mesures prises par le gouvernement en vue de prendre en charge médicalement et psychologiquement les personnes victimes des viols et des violences sexuelles. Justicia invite le gouvernement à mettre tout en œuvre pour que soient dénichés tous les auteurs de ce viol ainsi que violence sexuelle et les déférer devant les instances judiciaires compétentes pour y être poursuivis. Justicia demande au gouvernement et aux services pénitentiaires de tout mettre en œuvre pour accroître la protection des personnes vulnérables ou des détenus vulnérables chaque fois qu'une insurrection se déclare dans des centres pénitentiaires ainsi que les prisons à travers la République.
Toujours dans le chapitre justice, piste pour l'émergence. Le parti de Seth Kikuni condamne l'arrestation et détention de son président et ses collaborateurs Roger Lubambula et Gabriel Moussafiri par les services de renseignement. Selon ce parti qui s'exprime dans un communiqué, ces arrestations qu'il qualifie d'arbitraires constituent des violations graves des dispositions des articles 16, 17 et 18 de la Constitution et des instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme ratifiés par la RDC. Plus particulièrement, ces actes portent gravement atteinte à leur droit à la vie, à l'intégrité physique et morale, ainsi qu'à leur droit d'entrer en contact avec leurs familles respectives et avec leurs conseils, et constituent au regard des dispositions pertinentes du Code pénal congolais des infractions d'arrestation et des détentions arbitraires, ajoute le communiqué. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a pris part hier mercredi 3 septembre à Beijing à la cérémonie officielle d'ouverture du 9e forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tient du 4 au 6 septembre 2024. Il a participé le même mercredi soir au traditionnel banquet d'ouverture du forum offert par le président Xi Jinping. Ces assises constituent pour la RDC, principale destination des investissements chinois en Afrique en 2023, une occasion de renforcer son partenariat stratégique avec la Chine, indique la présidence de la République. Elle vise à élargir les terrains d'entente, renforcer l'amitié et promouvoir la coopération sino-africaine. Ici au pays, le territoire de Kailo est dans le noir. Il y a plus de 22 ans, nous sommes dans la province du Maniema. L'administrateur de ce territoire, qui les confirme, lance un SOS aux autorités afin de trouver une solution adéquate. Au-delà du manque de courant dans ce coin, il y a aussi la prise en charge de malades à l'hôpital général de référence de Kailo qui laisse à désirer. Amaury Mwendasoko Marcel a lancé ce message lors du passage du gouverneur Moussa Kabankoubi dans cette partie de la province. On écoute Amaury Mwendasoko Marcel, administrateur de Kailo, au micro de Florence Kizalunga.
Le territoire de Kailo a des difficultés énormes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les courants. Il y avait les courants auparavant, le barrage était abîmé. Le courant est parti, ça fait déjà 22 ans et le territoire de Kailo est dans les noirs. Il n'y a pas de bonnes routes pour désenclavement du territoire de Kailo et celui de Pougna. Les routes à des sites agricoles en état de délabrement très avancé. Les bâtiments aussi pour les habitations des agents de l'État sont dans un délabrement très avancé. Donc nous demandons à son excellence, monsieur le gouverneur, avec concours avec l'ensemble provincial, pour nous aider à trouver une bonne administration dans notre entité. À ce qui concerne l'éducation, nous avons ici chez nous, dans le territoire de Kailo, plusieurs infrastructures du PDL 145 territoire et on a déjà remis des écoles, EP Kailo et EP Mitondo, qui sont déjà finies et nous attendons d'autres infrastructures en cours d'exécution. Notre hôpital de référence de Kailo est dans un état de délabrement très avancé. Nous allons demander au gouvernement de nous aider soit la réhabilitation, soit la construction d'un nouveau bâtiment.
Je le disais dans les titres, au Nord Kivu, la situation reste tendue. C'est jeudi dans plusieurs localités des territoires de Massissi et Rutshuru. C'est après des violents combats qui opposent depuis quelques jours les rebelles du 1-23 RDF aux éléments des groupes des volontaires pour la défense de la patrie, VDP Wazalendo. C'est entre autres autour de Kibirizi, en chefferie de Bwito, et autour de Bweremana, en chefferie des Baoundé. Chris Mukand.
Ce jeudi, une accalmie s'observe sur les collines Ndomba et Bitonga surplombant l'agglomération de Bweremana en territoire de Massissi, ce après des violents affrontements dans la journée hier mercredi entre les éléments VDP Wazalendo et les rebelles M23. Toutefois, selon deux sources locales, les rebelles continueraient à renforcer leur position notamment vers la colline de Kabassé proche de Bweremana, ce qui accroît l'inquiétude dans la zone. Par ailleurs, d'autres violents échanges de tirs entre les mêmes rebelles soutenus par le Rwanda et les combattants locaux ont été rapportés dans la matinée toujours hier mercredi au village Bushimba près du centre de Buleusa. C'est à la limite entre la chefferie de Bwito et le territoire voisin de Walikale. Un civil a été blessé et toutes les activités socio-économiques ont été paralysées à Buleusa. Pendant ce temps, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, la panique s'observe en ce moment. Après des échanges de tirs entre les mêmes forces le mardi et hier mercredi, vers Kabanda, près du centre de Kibirizi, des actes de représailles ont été rapportés. Mais tout reste à confirmer. Chris Mukand, Radio Kapi, Goma.
La démarcation de la frontière commune entre la RDC et l'Ouganda est au cœur d'une rencontre de 3 jours débutée hier mercredi à Goma. La commission technique mixte RDC-Ouganda discute d'une feuille de route et du budget du dit projet. C'est là pour résoudre les conflits des limites qui opposent depuis longtemps les deux pays voisins. Bernard Danyangi nous en parle.
Longue de 71 km, la zone des limites frontalières concernée par ce projet part du Mont Sabinyo, tripoint RDC-Ouganda-Rwanda, jusqu'à Bwindi, limite entre le parc national de la Bwindi-Ouganda et la réserve naturelle de Sarambwe-RDC. À ce jour, seulement 16 bornes frontalières y sont démarquées, laissant place à la persistance des conflits des limites entre les deux pays. D'où la nécessité de définir des actions concrètes selon Vangu Mabiala, expert du ministère congolais des Affaires intérieures.
Cette réunion a pour objectif d'élaborer les budgets, les travaux de démarcation de la frontière pour faire apparaître sur le terrain la ligne de démarcation.
Le colonel Nabote Mosigwa, chef de la délégation des experts ougandais, qui ne reconnaît pas les multiples conflits transfrontaliers entre les deux pays, affirme que cette opération de démarcation est préventive.
Nous n'avons jamais été en guerre avec la RDC, mais nous sommes là pour nous rassurer que s'il y aurait quelques mésententes, que tout cela soit bien élaboré, parce que c'est pour l'avantage de la partie congolaise et ougandaise.
Rappelons que plus de 765 km de limites frontalières séparent l'Ouganda et la RDC depuis l'Ituri jusque dans l'est du territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
Actualité internationale. Le président russe Vladimir Poutine a assuré ce jeudi soutenir la candidate démocrate Kamala Harris, actuelle vice-présidente des États-Unis pour la présidentielle américaine de novembre, au lendemain d'accusations d'ingérence électorale formulées par Washington et rejetées par Moscou, écrit l'AFP. La Chine s'engage à allouer à l'Afrique 50 milliards de dollars de financement ces 3 prochaines années, a annoncé le président chinois Xi Jinping en ouverture du forum Chine-Afrique à Pékin ce jeudi 5 septembre. De nombreuses délégations africaines ont fait le déplacement dans l'espoir de décrocher des contrats en Chine pour leurs entreprises, alors que les déficits commerciaux africains vis-à-vis de la Chine s'est encore creusé l'an dernier, estimé à plus de 60 milliards d'euros.
L'invité.
Comme annoncé, notre invité, c'est le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Monseigneur Donatien Cholet s'exprime sur le drame de la prison centrale de Makala qui a fait l'objet d'une déclaration des évêques catholiques rendue publique hier mercredi. Il s'entretient avec Grâce Amzati.
Monseigneur Donatien Cholet, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la réaction de la CENCO à ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala?
C'est naturellement la désapprobation, l'indignation, la condamnation, parce que c'est la énième fois en peu de temps qu'on compte autant de morts qu'on pouvait éviter si on avait sens de responsabilité à plusieurs niveaux. La CENCO n'a pas fait une enquête minutieuse, mais il y a des choses qui sautent aux yeux. D'abord, le nombre de morts, on n'a pas voulu être précis parce que c'est discuté, mais ce qui est évident, c'est on parle en termes de centaines. Et qui dit mort par balle, dit la responsabilité dans ce cadre-là de forces des armées, de forces de sécurité. Il y a une autre évidence, c'est le fait que les prisons sont hyper surpeuplées. Donc, beaucoup sont morts d'étouffement, c'est à cause de ce sous-peuplement qui devrait déjà interpeller les responsables depuis longtemps.
Si nous comprenons bien, les évêques sont aussi sceptiques quant au bilan dressé par le gouvernement.
Ils ne sont pas entrés là-dedans. Pour eux, l'évidence, même s'il y avait 3, 4, 5 morts, c'est déjà beaucoup. Et là, je vous dis, ce sont des centaines. Donc, comme ils n'ont pas fait, la CENCO n'a pas organisé une enquête minutieuse, le fait qu'il y ait autant de morts, c'est déjà très grave.
Selon les témoignages que vous avez reçus, quelles seraient les causes de ces drames?
Jusque-là, on a suivi tous le communiqué officiel qui parle de tentative d'évasion. C'est la version officielle, mais au-delà de toutes les raisons qui pourraient justifier cette tentative d'évasion provoquée ou voulue par les prisonniers, ce qui est évident, il y a une réalité qui traduit la banalisation de la vie dans notre pays.
On parle aussi des femmes qui ont été violées.
Mais écoutez, c'est quelque chose qui, je ne sais pas comment le commenter. Comment, dans ce contexte-là, dans cet environnement-là, où le réflexe humain normal serait peut-être de s'éloigner, mais comment est-ce qu'on peut arriver à des actes macabres comme ça? Donc, c'est l'indignation. La Senko n'a pas de mots pour exprimer. C'est vraiment la bestialité.
Et qu'est-ce que vous recommandez aux uns et aux autres par rapport à tout ce qui s'est passé à la prison?
Eh bien, les recommandations ou les exhortations sont d'abord à l'adresse de gouvernants qui doivent garantir le respect de la vie humaine. Tout homme créé à l'image de Dieu, fût-il prisonnier, doit être respecté. Il y a aussi la justice congolaise qui doit respecter les droits des justiciables et surtout les procédures qui règlent les arrestations, parce que à ce niveau-là, il y a un problème. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en prison qui ne devraient pas s'y retrouver. Et il y a aussi l'invitation au gouvernement à honorer ses propres engagements rendus publics, et surtout celles relatives à la construction de nouvelles prisons. On peut se demander aujourd'hui combien de prisons sont en construction, bien ont déjà été construites à partir de ces promesses. Il y a aussi la recommandation par rapport aux forces de l'ordre de sécurité qui sont là pour protéger la population, mais là ils se transforment en leur propre bourreau, mais c'est extrêmement grave.
Après tout ce qui s'est dit, est-ce que la Senko pourra aussi participer aux enquêtes?
Elle n'en a pas de moyens, ce n'est pas son travail. La Senko interpelle qui de droit, qui doit le faire. Et là, c'est un problème qui apparaît aussi dans la déclaration des évêques signée par Monseigneur Muteba. L'issue des enquêtes, tous les drames qui ont été énumérés au début du constat de cette déclaration, nous ne voyons pas le résultat de ces enquêtes. Donc quelque part, il y a une légèreté, une irresponsabilité. C'est pas normal que pour tous ces drames, il n'y ait pas des enquêtes assez sérieuses qui rassurent la population.
Un dernier mot, un message par rapport aux conditions de détention dans toutes les prisons en RDC.
Je crois que le ministre de la Justice en est conscient, les autorités en sont conscientes. Les prisonniers ont droit à la vie, ont droit à la dignité. Donc l'État devrait mettre tous les moyens en son pouvoir pour garantir les conditions acceptables de l'emprisonnement dans notre pays. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des bêtes, des prisonniers.
Monseigneur Donatien Chollet, je vous remercie.
Je vous en prie.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikota sous la supervision de Pélé Kipela Mondo. Billy Landry Betou était à la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.